Votre podcast avec Hello Bank Pro, la banque digitale spécialiste des indépendants qui propose toutes les solutions pour développer votre activité.
Être aligné avec soi-même et surtout connaître sa valeur. Si vous savez ce que vous valez, qui vous êtes aligné avec vous-même, savoir que les choix que vous faites aujourd'hui, vous êtes encore capable de les assumer dans 15 ans, c'est comme ça que je me drive au quotidien dans mes décisions.
Si tu n'es pas exposé, tu auras beau avoir la plus belle Ferrari du monde dans ton garage, si personne ne la voit, ça n'a aucun intérêt. La super Peugeot qui va se la péter dans la rue, elle va en vendre 10 fois plus.
Vous n'avez pas à vous sentir coupable de rien. Vous avez décidé de ne pas être salarié. C'est comme une porte qui est sortie de ses gonds. Les autres n'ont pas fait. Et vous avez pris des risques que les autres n'ont pas pris. Assumez, il n'y a aucune culpabilité à avoir.
Le podcast des indépendants sur BFM Business, présenté par Ludovic Badaud.
Très heureux de vous retrouver sur BFM Business dans le dernier épisode de la saison 4 du podcast des indépendants. C'est déjà la fin de cette quatrième saison et comme à chaque fois, j'aime recevoir des invités exceptionnels pour clôturer les saisons. Et aujourd'hui, Kelly Massol, Sixtine Mouliberto, Nicolas Dufour, on va parler incarnation et on va aussi parler réalité de l'entrepreneuriat avec trois invités exceptionnels que je laisse Ombline vous présenter.
Première invitée pour le final de la saison 4 du podcast des indépendants, Kelly Massol, entrepreneur, investisseuse et fondatrice de la marque capillaire Les Secrets de Loli. Le secret de Loli est devenu une référence dans l'univers des cheveux texturés. C'est avec seulement 1500 euros dans sa cuisine que Kelly a construit en quelques années une entreprise valorisée à 180 millions d'euros. Son ambition, l'international, aux côtés des plus grandes marques comme L'Oréal. Aujourd'hui, également investisseuse dans l'émission Qui veut être mon associé, Kelly défend une vision de l'entrepreneuriat fondé sur l'audace, la résilience et l'indépendance économique. Deuxième invitée, Sixtine Mouliberto. Entrepreneur depuis ses 17 ans, Sixtine est la cofondatrice du Crayon, un groupe de médias rassemblant plus de 6 millions d'abonnés cumulés. Elle est également CEO du Surligneur, l'agence de relations presse, influence et personal branding qui accompagne plus de 300 entreprises et entrepreneurs. À seulement 24 ans, elle dirige une quarantaine de collaborateurs aux côtés de ses trois associés. Jeune femme d'affaires, elle incarne une jeunesse ambitieuse, assumée, qui n'a pas peur de s'exposer ni de défendre ses idées. Troisième invité, Nicolas Dufour. Nicolas pilote la BPI, la Banque publique d'investissement, acteur central du financement et de l'accompagnement des entrepreneurs français, avec pas moins de 72 milliards d'euros injectés dans l'économie française en 2025. Passé par la tech, l'industrie et la finance, il défend une vision ambitieuse de l'économie française, fondée sur l'innovation, l'industrie et la prise de risque. Pour Nicolas, entreprendre, c'est avant tout construire des projets capables de transformer durablement la société.
Je suis ravi de vous accueillir et j'avais envie de commencer ce dixième épisode, je le disais à déjà la fin de la saison 4, par une question très simple. On est ici sous les projecteurs, on est sur un plateau, un magnifique plateau. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, il faut être dans la lumière pour réussir, Kelly?
Je dirais que ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'incarnation, en fait, c'est important, mais c'est pas primordial. Il y a plein de gens qui réussissent et qui restent dans l'ombre.
Et d'ailleurs, tu faisais une nuance quand on préparait l'émission, tu me disais, les secrets de Loli, c'est ma marque, elle est indépendante de moi, et d'ailleurs, il y a beaucoup de clients de Secrets de Loli qui ne savent pas que c'est Kelly Massol qui est derrière.
Effectivement, parce qu'en fait, si vous voulez pouvoir faire grandir une marque, et notamment une marque parfois à l'international ou ouvrir des marchés supplémentaires, l'incarnation peut freiner. Et dans le développement commercial de ma marque, pendant 7 ans, j'ai accepté de me mettre en retrait pour pas que la marque soit catégorisée comme une marque dite ethnique, tout simplement parce que dès qu'on me voyait, on se disait bah, c'est pour les cheveux frisés ou pour les cheveux uniquement crépus, alors que nos clientes, ça passe de la blonde aux yeux bleus avec les baies anglaises, à la rousse aux cheveux frisés. Donc, si je voulais une marque plus grand public et mainstream, j'ai eu le besoin de me tenir en retrait quelques années.
Est-ce qu'il faut dissocier la marque de l'entrepreneur, Sixtine?
Oui et non. Oui, il faut dissocier la marque de ton entreprise avec l'entrepreneur. Mais pour moi, c'est un énorme atout si l'entrepreneur porte la voix de l'entreprise. Après, je suis d'accord que quand on atteint un niveau comme celui que, par exemple, Kelly a atteint, tu dois au bout d'un moment te dissocier pour pouvoir te mettre à l'international et pouvoir peut-être un jour espérer, je sais pas, revendre ta boîte ou autre. Parce que si c'est trop associé à ton image à toi, bah t'es un peu foutu. Je prenais souvent l'exemple d'Hugo Décrypte. Si malheureusement un jour, ce serait horrible, mais Hugo Décrypte a un accident, bah qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'Hugo Décrypte. Parce que les marques sont trop corrélées ensemble. Donc c'est important de dissocier les deux. En revanche, c'est un coup d'accélérateur qui est pour moi essentiel à notre génération où on ne vit qu'avec les réseaux sociaux et où il y a de plus en plus de gens qui lancent des business qui se ressemblent pratiquement tous. Et donc pour te différencier, tu n'as pas d'autre choix pour moi que d'être visible.
Nicolas, toi, ton approche quand on parle incarnation, elle est plus, j'allais dire, sociétale, en tout cas politique. Ce que tu tu dis, c'est les entrepreneurs doivent prendre la parole parce que sinon les choses se font sans eux finalement.
Oui, je dis absolument ça. Et dans un monde qui est un monde en effet de réseaux sociaux, alors bon, les personnes âgées regardent pas forcément les réseaux sociaux, donc chacun son public, mais il faut atteindre toutes les catégories sociales par le cœur d'une certaine manière. En même temps, il faut être respectueux du temps des gens, donc il ne faut parler que quand on a quelque chose à dire. Je considère que les entrepreneurs ont beaucoup de choses à dire.
Est-ce qu'on se bride? Est-ce qu'on s'empêche?
Les entrepreneurs s'empêchent, les entrepreneurs sont incroyablement pudiques. Alors bon, parfois ils se cachent derrière l'idée qu'ils n'ont pas forcément le temps, ils ne savent pas, ils n'ont pas les codes, ils ont peur de communiquer, etc. Mais les entrepreneurs, pour moi, sont un des piliers, si ce n'est plusieurs piliers à la fois, d'une société moderne, hein, d'une démocratie moderne. Et donc si on ne les entend pas, c'est un gros problème collectif. Ça veut dire qu'on n'entend que les autres. Mon propos, je m'aperçois en réalité, quand je relis ce que je disais il y a 14 ans au début de la BPI, je n'ai pas changé, je leur dis, vous devez monter sur votre tonneau, on ne vous entend pas assez. Souvenez-vous de l'époque où les entrepreneurs donnaient leur nom à leurs entreprises, Michelin, Renault, Peugeot, Lagardère, ils n'hésitaient pas. Et aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel toutes les marques se ressemblent, d'une certaine manière, notamment dans l'industrie, hein, et les entrepreneurs sont absents. Donc je leur dis, apprenez à communiquer, vous avez des punchlines dans votre cœur, sortez-les, n'hésitez pas à vous autofilmer, faites une minute sur TikTok, vous avez le droit. Et d'ailleurs, je vous autorise à le faire, et on va vous mettre en gloire.
Voilà. Mais tu leur dis, Nicolas, ce que vous devez dire, c'est votre avis sur la situation du pays. C'est là où on n'est plus simplement dans du personal branding, mais tu dis qu'il faut participer au débat en s'exposant aussi.
Mais bien entendu, les entrepreneurs recrutent. On en parlait à l'instant, payent tous les mois des salaires.
Les entrepreneurs collectent
les cotisations qui financent la sécurité sociale, l'État-providence. Les entrepreneurs payent un impôt sur les sociétés. Leurs salariés payent la TVA. Donc toute la base même de ce qui fait une société solidaire, qui est la nôtre, hein, incroyablement solidaire d'ailleurs, collective, c'est l'entrepreneuriat. Mmh. Et donc imaginer que les entrepreneurs n'ont pas le droit d'en parler, c'est presque une dystopie.
C'est un non-sens.
Un non-sens complet.
Kelly, sur ces questions un peu d'engagement, c'est-à-dire de s'exprimer quand il y a un truc qui nous agace politiquement, etc. C'est des choses, tu me disais, moi c'est hors de question parce qu'on a déjà vu des entrepreneurs qui finalement se sont retrouvés dans des situations hyper compliquées parce qu'ils ont pris la parole sur des sujets précis.
Bien sûr, en fait, on doit se préserver et préserver nos équipes aussi. Donc avoir un avis et ne s'exprimer lorsque effectivement on a vraiment quelque chose à dire, c'est déjà hyper important. Prendre l'espace juste pour prendre l'espace, c'est déjà ce que je rejette dans le personal branding en soi. Il faut avoir quelque chose à dire, il faut que ce soit clair, il faut que ça permette de faire avancer les choses. Par contre, le fait effectivement d'exprimer des avis personnels et sans avoir dissocié l'entreprise de l'entrepreneur peut poser problème parce qu'on se trouve avec des cas comme Huda Beauty qui s'exprime sur des conflits ou autres et qui fait qu'elle peut être boycottée alors que d'un côté il y a une marque et il y a des centaines de salariés derrière. Donc je pense que c'est aussi notre rôle de savoir faire preuve de réserve. Après, appelons un chat. Il y a plusieurs choses qui font qu'aujourd'hui les entrepreneurs ne s'expriment pas. Cette pudeur, elle ne vient pas de n'importe où. Cette pudeur vient que dans ce pays, lorsqu'on gagne de l'argent, on est le grand méchant loup. Il faut bien se rendre compte que si on est bénéficiaire, on est tout de suite le grand méchant loup, puisqu'on va accuser aussi les entrepreneurs de s'accaparer la richesse, alors qu'effectivement, on paye des cotisations, on participe effectivement à embaucher des gens, etc., etc. Et puis aussi, on a des familles, parfois, qu'on veut préserver.
Tu trouves que finalement, les entrepreneurs sont pointés du doigt?
Il y a eu une période où effectivement, les entrepreneurs ont participé grandement à l'industrie du pays, donc d'où ces très beaux noms qui ressortent et qui sont générationnels. Hein, voilà. Il y a eu de la construction générationnelle. Et puis, il y a ces nouveaux start-upers qui arrivent et à qui on dit, vous avez des valos astronomiques, participez plus. Aujourd'hui, vous ne payez pas assez ou vous partez à l'étranger. Il y a aussi tout ce système-là autour où on pointe du doigt les entrepreneurs, tout simplement parce que dans une période assez compliqué. Effectivement, ils arrivent à créer de la richesse et ça plaît pas forcément à tout le monde de se dire que des jeunes entrepreneurs arrivent à créer autant de valeur. Oui.
Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, c'est très intéressant. Et le premier point que je retiens, et c'est vrai, c'est qu'on a un peu le sentiment aujourd'hui que l'entrepreneuriat n'est pas suffisamment valorisé aux yeux des gens. Et que finalement, on est plus souvent pointé du doigt. Moi-même, je suis aussi entrepreneur et je me sens pas forcément considéré, alors que c'est un effort au quotidien qui est quand même démentiel pour tenir aussi une activité, surtout dans le climat qu'on connaît. Est-ce que tu as le même sentiment, Sixtine, que finalement, l'entrepreneuriat aujourd'hui a perdu un peu de sa valeur aux yeux des gens?
Oui et non. Je trouve qu'on est dans un pays qui est fait pour entreprendre et ça, je continue continue de le dire malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont plus d'accord avec ça. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui partent monter des entreprises à Dubaï ou autre, et pas forcément dans les formations. Hein, donc, c'est ce cliché des formations à Dubaï, c'est pas toujours très vrai. Mais moi, je crois encore beaucoup en la France. J'estime qu'on est en un pays qui a tout pour entreprendre. Je trouve que les gens sont extrêmement collectifs. Les gens s'entraident énormément, en tout cas, dans l'écosystème entrepreneurial. Il y a la BPI qui est là pour les aider. Et c'est vrai que moi, j'admire beaucoup, Nicolas, ce que vous faites avec la BPI, parce que j'aurais tellement aimé qu'il y ait plus de BPI en France. Malheureusement, ce n'est pas le cas et j'espère que ça arrivera. Mais on est quand même un pays qui est très chanceux à ce niveau-là.
Mais sur la considération de la société, moi, c'est ça, hein, c'est le regard en fait, de l'autre. Hein. C'est vrai que quand tu dis que tu es entrepreneur, on a presque l'impression que l'ambition aujourd'hui, elle doit être un peu cachée. Hein.
J'irai plus loin. Je dirais qu'en fait, on se retrouve avec une fracture où il y a deux équipes. Il y a l'équipe des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et de l'autre côté, on a créé une fracture avec les salariés, alors qu'en fait, ce sont les vases communicants. Mmh. Sans les salariés, nous, entrepreneurs, on ne pourrait pas faire ce qu'on réalise aujourd'hui. Et vice-versa, sans les patrons d'entreprise qui parfois ne dorment pas la nuit, qui parfois font des sacrifices de temps avec leur famille, leurs enfants ou leurs proches, et là je parle que du côté personnel, il n'y aurait pas effectivement de salariés. Voilà. Donc en fait, malheureusement, on a mis en opposition ces deux mondes-là sur ces 10 ou 15 dernières années, alors qu'en fait, on est tous dans le même bateau, bien
au
contraire.
On est une équipe, en fait.
On est une équipe. Et j'ai un grand plaisir à être chef d'entreprise et à avoir créé effectivement mon univers avec ma marque et mes salariés, parce qu'effectivement, ils sont aussi importants à mes yeux que n'importe quel autre chef d'entreprise, bien sûr. Ils font partie de l'équation.
Nicolas.
C'est un pays profondément entrepreneurial, il l'a toujours été. Bon. Et en même temps, c'est un pays où les entrepreneurs ont toujours cette espèce de sentiment de culpabilité contre lequel je lutte. Vous n'avez pas à vous sentir coupable de rien. Vous avez décidé de ne pas être salarié. Vous vous êtes mis à votre compte. C'est comme une porte qui est sortie de ses gonds. Les autres n'ont pas fait. Et vous avez pris des risques que les autres n'ont pas pris. Et vous avez eu des angoisses que les autres n'ont pas eues. Vous avez eu des nuits difficiles que les autres n'ont pas eues.
Et l'excitation que les autres n'ont pas eues aussi.
Vous avez eu parfois des chances que les autres ne sont pas allés chercher. Et donc, assumer, il n'y a aucune culpabilité à avoir. Si, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui échouent. Et donc, quand vous réussissez, eh ben, c'est la rançon des risques que vous avez pris. C'est la rançon de la chance que vous êtes allé chercher. On est un pays dans lequel, si tu vas chercher ta chance, tu la trouves. Tu pars de rien, tu peux faire fortune. Ça, c'est la France. Et il faut absolument lutter contre le sentiment de culpabilité des entrepreneurs. Il faut se libérer de ça, quoi. Comme en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, comme partout. Une fois que vous êtes libéré de ça, comme par hasard, vous pouvez commencer à expectorer votre succès et dire, voilà, et faites comme moi. Et suivez-moi. Et effectivement, je gagne de l'argent, mais je paye beaucoup d'impôts. Beaucoup, beaucoup d'impôts. 60% de la richesse française redistribuée, quand même. 60% de la richesse française, le plus gros taux de prélèvement obligatoire d'Europe, 44%. Les impôts sur les riches les plus élevés d'Europe. Donc ça va, quoi. Le contrat social, il est bien équilibré. Donc moi, je demande aux entrepreneurs...
C'est pas ce qu'on leur dit toute la journée.
Arrêtez de vous mettre en mode ouin-ouin.
Ouin-ouin ou discret, peureux?
Non, un peu ouin-ouin. Si je parle, je vais me faire taper. Et moi, je dis, mais attends, si tu dis ça, c'est que t'es pas complètement entrepreneur. T'as peur de quoi? Parle! Reconnais ton succès. Il s'agit pas d'être bling-bling non plus, hein. Tu me dis à l'instant que t'as 40 salariés. Mais je dis, c'est incroyable, quoi. Elle fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'EBITDA. Mais c'est super dur à faire. Moi, j'ai été entrepreneur. Je peux vous dire que j'ai échoué 4 fois sur 5. 4 fois sur 5. J'ai perdu beaucoup d'argent. Et sans cesse, je me levais le matin en me disant, le plus dur, à l'époque, c'était des francs, hein. Le premier million de francs de chiffre d'affaires, le plus dur.
Bien sûr.
Incroyablement dur. Les gens ne se rendent pas compte. Un salarié n'imagine pas ce que c'est que d'atteindre le premier million de francs de chiffre d'affaires. Bon, 5 millions d'euros. Toi, tu viens de faire une opération. Putain, fierté, quoi. La bonne nouvelle, je vais vous dire, c'est qu'on calcule chaque année un truc qui s'appelle l'indice de l'entrepreneuriat français. C'est-à-dire qu'on compte le nombre de Français qui sont entrepreneurs, ont été entrepreneurs ou veulent devenir entrepreneurs parmi la population adulte.
Et ça progresse.
Vous savez à combien on est? 35%. Donc les Français sont entrepreneurs, veulent être entrepreneurs, ils sont attirés par ça. Il manque plus que la lutte contre le sentiment de culpabilité.
Et le statut auto-entrepreneur n'y est sans doute pas pour rien. Hein. En banalisant, en facilitant l'accès à l'entrepreneuriat, on a vu aussi un nombre d'auto-entrepreneurs stables et considérables depuis 2009.
Qui peut-être vont redevenir salariés après. C'est
peut-être,
pas grave.
Mais en tout cas, on a rendu l'entrepreneuriat plus classique, plus normal. Et c'est aussi là qu'il y a aussi une forme de responsabilité. Ça me fait penser à tes contenus, Kelly. Dans tes contenus, on voit ta réussite. Elle est inspirante pour beaucoup. Et est-ce que c'est aussi ça, le rôle d'un entrepreneur, quelque part, tu portes aussi un message d'espoir.
Alors déjà, avant de partager effectivement ma réussite sur les réseaux sociaux, il a fallu déjà un que je la digère moi-même, parce qu'il y a aussi ça, se rendre compte qu'on a réalisé quelque chose. Et ensuite, je me suis rendu compte que grandissant en France en tant que petite fille issue de la diversité, je pouvais vous citer des chanteurs, je pouvais vous citer des footballeurs, des sportifs, mais je ne pouvais pas vous citer une femme entrepreneuse et encore moins une femme issue de la diversité. Donc à partir de ce moment-là, vous savez, on a besoin de se projeter, l'enfant agit par mimétisme et aujourd'hui je suis fière de savoir qu'il y a des petites filles qui se déguisent en Kélimassol pour jouer et jouer à l'investisseuse. Ça ouvre le champ des possibles. Donc déjà je le fais aussi pour la jeune génération. Et puis pour toutes les personnes qui m'écrivent, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'écrivent, ils ont 14 ans, et il y en a, ils m'écrivent, ils ont 57 ans, en me disant, vous voyez, finalement, je me suis lancée, ou j'ai décidé de me lancer, ou j'ai poussé ma fille à lancer son projet. Et donc, je suis heureuse de participer, effectivement, à ouvrir les champs des possibles. Et c'est pour ça que je communique. Alors, bien sûr, vous avez toujours des gens qui vont vous dire, elle est un but de sa personne, elle parle d'elle-même, elle parle le jeu. Mais en fait, si on ne le fait pas, si je ne le fais pas, en fait, il y a une nouvelle génération qui n'arrivera pas, elle, à se projeter, et on va rater des talents et on va rater des magnifiques opportunités de continuer à faire vivre l'entrepreneuriat en France.
Tu as dit quelque chose de très intéressant, tu as dit il a fallu que je digère ce que j'avais créé parce qu'à un moment, en fait, on ne se rend pas toujours compte de ce que l'on a créé. Et il y a peut-être beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rendent pas compte que tous les jours, c'est des battants et qu'ils sont déterminés et qu'ils affrontent des tempêtes. Et comme c'est devenu un peu la routine, on ne se rend plus compte de l'effort qui est donné et on banalise finalement, Sixtine.
Oui, on banalise, mais après, c'est aussi tellement incroyable de construire quelque chose avec des gens. Moi, je crois énormément au collectif. Le fait de vraiment construire un quartier avec plein d'autres gens autour, tout le monde s'entraide sans quelque chose en retour vis-à-vis des autres, mais c'est un bonheur quotidien. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, on me proposerait un chèque de dingue pour acheter ma boîte, mais je serais profondément malheureuse si je n'avais plus ma boîte au quotidien.
Mais c'est
si
ça, l'entrepreneuriat.
Il n'y a plus tes équipes, il n'y a plus tes associés, que tu résous des problèmes ensemble, c'est un énorme bonheur humainement à vivre. Et c'est pour ça que moi, je suis hyper triste pour les gens qui ne réalisent pas qu'en fait, tu peux aimer travailler, que tu peux vraiment avoir des passions, que tu peux vraiment te développer. Moi, j'ai tellement d'amis, parce que moi, je suis encore un peu jeune, j'ai 24 ans, j'ai tellement d'amis autour de moi qui sont en train de chercher des jobs et qui sont mais profondément à pas vouloir le faire, comme si c'était encore l'école et que tu n'avais pas envie d'y aller. Et moi, je me dis, mais si elles voyaient la réalité via mon spectre, mais je pense que ça les mettrait en dépression parce qu'elles ne peuvent pas réaliser pour elles que c'est possible, mais d'avoir un bonheur.
Et c'est pour ça qu'il faut communiquer, c'est pour ça qu'il faut montrer ce que vous faites pour justement inspirer et se dire c'est possible. Mais toi, Nicolas, tu vas encore plus loin puisque tu dis donner votre avis. Par exemple, je pense au budget. Le budget qui a mis un temps de dingue à être, comment dit-on, à être voté.
Oui.
Et inévitablement, ça a un impact sur le business. On n'a pas entendu tellement d'entrepreneurs dire « mais bougez-vous les politiques, en fait, parce que ça a des conséquences sur les affaires. » Il y a une vraie pudeur, en fait, quand on parle politique, quand on parle actualité du pays.
En l'occurrence, je ne pense pas que le sujet soit pour les entrepreneurs de parler aux politiques en disant « bougez-vous les politiques », parce que les politiques se bougent quand la société se bouge. Les politiques sont le reflet de la société, on est en démocratie. On ne peut pas demander aux politiques d'être des hommes et des femmes providentiels qui ont 5 ans d'avance et qui vont comme ça tirer la société, comme on tire un glacier.
Oui, mais on peut leur demander de se mettre d'accord à l'Assemblée nationale sur un budget.
Non, mais d'accord, mais à l'Assemblée nationale, en fait, il reflète les contradictions de la société française. Donc moi, je pense que c'est d'abord la société française qui doit faire son travail sur elle-même, sur des sujets très complexes, qui sont notamment nos sujets de solidarité et d'équilibre de long terme, autour de la question même de la dette, qui est une question qui est existentielle pour notre pays. Donc, quand je dis qu'il faut que les entrepreneurs s'expriment, il faut qu'ils s'expriment auprès de la société française. Y compris, d'ailleurs, dans les familles, parce que vous savez, dans les familles, vous avez une fille qui a été entrepreneuse, le fils qui est, instituteur, une deuxième fille qui est infirmière. Ils ont déjà du mal à se parler, parce qu'ils appartiennent à des mondes différents. Il faut qu'on apprenne à se parler à l'intérieur de la société. On a aujourd'hui, vous savez, 54% des Français adultes dont le revenu mensuel est en fait versé par l'État. Quand vous comptez les retraités, les chômeurs, les minima sociaux, etc. C'est considérable.
C'est
vous vous rendez compte? Donc vous avez une minorité de Français dont les revenus mensuels sont versés par une entreprise ou issus de l'entrepreneuriat. Une minorité. Si vous voulez équilibrer le débat public, il faut que ces gens s'expriment. Il faut absolument que ces gens... Et je répète, il ne s'agit pas de donner des leçons aux politiques. La vie politique est très très difficile. Il s'agit de dire dans une société, attendez, ça ne peut pas fonctionner. C'est déséquilibré.
C'est juste témoigner. Vous dites en fait raconter, témoigner.
C'est juste des punchlines de bon sens. qui peuvent tout à fait être entendues.
Je pense qu'on ne devrait pas faire un budget avec des gens qui ne savent pas gérer leur propre budget et qui sont déficitaires depuis X temps. Il faudrait aussi mettre les pieds dans le plat une deuxième fois. Mais c'est ce que je vous dis, quand les entrepreneurs s'expriment, il y a des punchlines et ce n'est pas forcément très agréable à entendre. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on ronge notre frein. On subit chacune, effectivement, chacun des ralentissements comme un budget, comme un changement
de loi,
des présidentielles ou autres. Les entreprises subissent à chaque fois un ralentissement dans leur quotidien parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc on est obligé de rester statique pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Ça change tous les 4 matins et pour nous, en fait, on doit gérer notre entreprise avec des nouvelles lois qui vont passer. Par exemple, il y a plein de gens qui ont essayé de faire des opérations financières et qui se sont retrouvés avec est-ce qu'on va faire passer une loi sur les dividendes et en fait, c'est ce qui se passe. C'est que les banques deviennent frileuses, elles prêtent moins et c'est comme ça, en fait, que les choses se dégradent et que parfois on rate une opportunité, par exemple, de vendre son entreprise ou de changer d'investisseur parce qu'il y a des gens, des politiques, qui ne se rendent pas compte effectivement que le temps qu'ils sont en train de mettre, c'est le temps que nous perdons dans la société civile pour pouvoir faire avancer les choses.
Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui au final se mettent quand même des œillères. Hein. C'est-à-dire qu'on regarde plus trop l'actualité parce qu'effectivement, il faut avancer.
Ils n'ont pas tort pour le coup.
Comment ?
Pour le coup, ils n'ont pas tort. Ouais. Si vous voulez garder votre potentiel énergétique, c'est-à-dire votre élan vital, votre capacité à vous auto-hypnotiser et à ne pas ressentir la douleur.
Voilà.
Vous devez vous mettre sous une bulle protectrice.
D'où la non-prise de parole. On reste concentré et focus avec ce qu'on doit faire et ce qu'on a à faire. Et ensuite, tu es obligé de te dire, OK, y a des choses qui vont arriver sur le chemin, on va faire avec. De toute façon, il faut apprendre en marchant.
Oui.
Donc, et on n'a pas le choix et c'est indépendant de nous. Donc en fait, on se dit, plutôt que de perdre notre temps à parler, pas forcément être écouté, ou que ça nous crée des problèmes supplémentaires qui vont se rajouter sur la route, on reste focus et on continue d'avancer et on essaie de ne pas entendre le bruit ambiant, parce que c'est du bruit ambiant, je vous le dis, concrètement.
Oui, complètement. Et ça peut être décourageant. Et ça en vient à la troisième partie de cette épisode qui était un peu la réalité de l'entrepreneuriat, parce que la réalité, c'est qu'effectivement, il y a tellement de défis qu'on peut se mettre des œillères. Est-ce qu'il y a d'autres conseils très concrets qu'on peut donner ? Je vous rappelle qu'on est sur le podcast des indépendants, donc c'est souvent des solopreneurs, des gens qui ont envie petit à petit peut-être d'embaucher, mais qui sont aujourd'hui plutôt solo. Quels conseils on peut donner à ces indépendants pour entreprendre ?
Alors, c'est très bizarre ce que je vais vous dire, mais on n'est pas arrivé sur Terre pour souffrir. Non, parce qu'on a tendance aussi à glorifier la souffrance dans l'entrepreneuriat, mais tout le monde ne souffre pas. Donc, il y a un moment où il faut savoir prendre de la hauteur. Il faut savoir ne pas se cramer aussi, c'est très important. Et surtout, ne pas se dire que tout est un long fleuve tranquille chez les autres. C'est normal d'avoir à gérer des soucis, des problématiques ou autres. Mais surtout, il faut savoir se préserver soi-même. Parce que on parle du burn-out des salariés, mais il faut faire aussi attention au burn-out de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui se crament et j'aurais tendance à dire mélangez-vous, parler, échanger avec d'autres entrepreneurs, parce que ça vous permet en fait de vous rendre compte que les difficultés de l'entrepreneuriat, elles sont pas uniquement sur vos épaules, elles sont partagées par des centaines de milliers d'entrepreneurs aussi. Je pense que c'est très important d'échanger et de retrouver ses pairs, parce que quand on est salarié, on peut retrouver ses pairs très facilement, que ce soit dans notre entreprise ou quand tu parles à des gens dans un café ou dans un dîner, la plupart du temps, les gens te disent « moi, je suis salarié ». Donc, il y a des points communs. Mais quand tu es entrepreneur, tu te sens parfois un peu seul. Donc, la solitude de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut vaincre et il faut vraiment faire attention à ça.
C'est intéressant d'avoir une femme d'affaires qui a des vocations internationales, qui, à mon avis, fait des grandes journées, des longues journées et qui parle quand même de se préoccuper de la santé mentale du dirigeant. Parce que ça, c'est des discours un peu nouveaux. Il y a eu, c'est vrai, on a une culture du « le dirigeant doit en chier », pour en parler clairement.
C'est pas possible d'avancer avec la main sur un œil quand on a les deux yeux qui fonctionnent. Donc c'est très important d'avoir des soupapes, c'est très important d'échanger, c'est très important d'être accompagné. Alors je parle pas forcément de coach ou de formation en ligne, je parle vraiment d'échanger avec des gens qui vont vous donner l'autre côté de l'entrepreneuriat et vous dire que vous n'êtes pas tout seul, c'est très important.
Et indépendant, ça veut pas dire solo en fait. Moi par exemple, je déteste le terme solopreneur parce que je trouve que ça ramène à la solitude, alors qu'indépendant, ça ramène à l'indépendance.
Exactement.
Et le risque en fait, quand on est indépendant, c'est justement de tomber dans la solitude, alors qu'il faut l'éviter au maximum, parce que c'est là où on lève un peu la tête du guidon. Et c'est ce que tu disais, Sixtine, le côté équipe, le côté team est super important pour entreprendre.
Pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes. Nous, on est 4 associés, et moi j'ai monté la boîte avec mon frère, et je trouve qu'il n'y a pas plus important que de ne pas le faire seul. J'aurais été incapable, moi j'ai eu l'idée de monter le crayon à 17 ans, j'aurais été incapable à 17 ans de faire la boîte toute seule. Ça n'aurait jamais marché, mais pas parce que j'étais flemmarde, ou j'étais un peu flemmarde, mais ou autre, c'est juste parce parce que bah, comment tu veux qu'un bébé de 17 ans fasse quelque chose, c'est très très rare. Et donc quand tu le montes avec d'autres gens,
ça te donne la confiance aussi.
Alors
hein.
Déjà ça c'est sûr, mais il y a un truc que j'aime bien répéter, c'est ne cherchez pas à être bon partout. Moi j'ai vu tellement d'entrepreneurs qui essaient d'être bon partout. Non, sois juste le meilleur dans un domaine, mais en fait t'as pas besoin d'être bon partout. Et donc c'est soit après tu t'entoures de gens, ça peut être des salariés, ça peut être des prestations externes, qu'importe, qui peuvent t'apporter ces autres compléments, soit tu as des associés qui t'apportent ces autres compléments. Mais c'est vrai que moi j'aurais été incapable de monter une boîte seule, pas seulement pour le plaisir quotidien que c'est d'être avec des gens, mais aussi parce que je pense que c'est plus difficile. Et donc j'ai énormément de respect pour ceux qui arrivent seuls parce que c'est pas facile. Vraiment.
Et on peut dire aussi aux indépendants, des fois on a l'impression quand on est entrepreneur qu'on a un mode de fonctionnement un peu atypique. On se sent un peu incompris, surtout par sa famille si on n'a que des salariés. Si c'est des fonctionnaires, pardon, n'en parlons pas. Et donc il y a ce sentiment un peu d'être isolé et de pas forcément connecté. Et en réalité, si on sort, si on va dans des événements, typiquement, on se rend compte qu'il y a d'autres indépendants qui fonctionnent comme nous. Ouais. Donc il faut juste forcer finalement cette rencontre.
Absolument. C'est ce que fait la BPI.
Oui, merci. Oui, parce que notre esprit, finalement, l'âme de la BPI, c'est de rompre la solitude de l'entrepreneur. Mm. C'est ce qu'on a toujours voulu. Hein. Donc typiquement, on fait 450 événements physiques par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'organisation qu'il faut pour faire ça. Et quand on fait le big, qu'elle y connaît, je crois, hein, 25 000 entrepreneurs dans un stade. Mm. C'est le plus gros de nos événements. Mais l'événement Quartier Général, c'est un événement où on a maintenant 5 000 entrepreneurs qui viennent. L'événement qu'on fait en décembre pour la French Touch, 5 000 entrepreneurs qui viennent pour parler de la French Touch. Hein. Aujourd'hui, c'est Global l'industrie pour la French Fab, je suis le président du salon parce que mon métier c'est de forcer les gens à déambuler les uns vers les autres et de se parler sans cesse.
De se connecter.
Et de se connecter, absolument. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent vraiment seuls. Hein. Et au début, c'est comme quand vous conduisez, vous savez, vous avez appris à piloter, il y avait votre pilote, votre copilote à côté, puis un jour, le copilote il vous dit, bah, prends les commandes et vas-y tout seul. C'est un kiff total. Donc pendant les premières années d'entrepreneuriat, le kiff de la solitude, il est total. Et puis au bout de 7, 8, 10 ans, ça commence à taper.
Ouais.
À taper le mental, sérieusement. Et c'est là où vous avez besoin d'avoir des partenaires. C'est ce qu'on fait. D'où nos activités de conseil, nos écoles. Mm-hmm. On a créé 200 écoles quand même pour les entrepreneurs, avec des promos. Donc ils bossent ensemble. Des promos de 20 à 30 entrepreneurs qui bossent pendant 18 mois ensemble. Et ça change totalement leur vie.
Et en plus, il y a aussi la force du réseau en matière de business, parce que finalement, ça va très vite de trouver des nouvelles opportunités quand on est connecté avec d'autres personnes, beaucoup plus vite que si on reste évidemment chez soi. Même avec toutes les méthodes de prospection du monde, c'est vrai que le réseau, ça peut être un vrai levier en termes de business aussi. Donc c'est super important dans ce sens-là, en plus des questions de santé mentale.
Bah ça c'est sûr, mais c'est on en revient à la force du collectif. C'est pour moi, tu ne peux rien construire tout seul, que ce soit avec des associés, avec un entourage, et puis surtout le réseau. Tu peux le relier aussi au personal branding, dans le sens où ça permet aux gens de penser à toi quand il y a un sujet qui est en rapport avec toi. Et donc c'est pour ça que moi je pousse beaucoup le personal branding, le fait de s'exposer évidemment intelligemment sur ces sujets, parce que c'est comme si tu avais juste une carte de visite qui était constamment exposée. Donc en fait, quand les gens ont un besoin sur un sujet qui est spécifique, tu es la première personne à laquelle ils pensent. Et le réseau, c'est la même chose. C'est juste que le réseau, c'est physique, c'est des êtres humains et êtres humains. Donc, c'est très utile parce que c'est du temps plus qualitatif qu'un post LinkedIn ou une vidéo Instagram, bien sûr.
Et une connexion humaine, c'est
très important. C'est essentiel. Très important. On reste des êtres émotionnels. Ouais. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais autant le réseau virtuel via les réseaux sociaux que le réseau physique, si tu es bon dans les deux, honnêtement, tu n'as pas beaucoup d'excuses pour ne pas te lancer et ne pas tout déchirer, parce que t'as tout, en fait. T'as les choses les plus importantes, selon moi.
Bah, je vais plus loin que ça. Je dis, plus il y a de digital, plus il faut du physique. Si vous voulez changer votre vie, il faut voir 1000 personnes par an. Avoir parlé à 1000 personnes. Il y en a une qui va changer votre vie. Si vous n'en voyez que de temps en temps, comme ça, ça va pas le faire. C'est insuffisant. Il y a un sujet de masse critique, si vous voulez vraiment naviguer. Il faut du vent.
Ouais.
Le vent, c'est ma statistique à moi, 1000 personnes par an.
Si on revient sur la partie incarnation, je voulais faire un petit pas de côté avec toi, Kelly, pour le personal branding, parce que tu m'as dit au début, c'est moi qui faisais mes contenus. On peut avoir un peu peur au début de faire des contenus assez personnels ou de se mettre en scène, de se montrer pour incarner aussi son activité ou sa vision de l'entrepreneuriat. Alors que toi, tu dis, faut y aller sans trop se poser de questions, en fait.
Je pense qu'il ne faut pas se poser de questions parce qu'en fait, les gens, ils veulent voir vous, votre entreprise, et savoir aussi les rouages qui sont derrière pour pouvoir justement s'identifier et savoir comment se passent les vraies choses et pas juste rester en surface. Donc, il y a des gens qui vont faire du contenu qui va être super léché. On va les suivre pour ça parce que c'est beau. Puis, il y a des fois où c'est réconfortant de voir que votre gamin, il vous dit que tu te prends pour la plus belle. Et afficher que, en fait, il y a une vraie vie derrière. Je pense que c'est important.
Ça, c'est vrai que le côté authenticité, il est stratégique, Sixtine.
Oui, essentiel. En fait, tu ne peux pas... inspirer les gens ou ne serait-ce que leur apporter n'importe quelle valeur ajoutée s'ils sentent que c'est faux. Parce que la confiance, c'est sur les réseaux sociaux, avec tellement de gens qui racontent énormément de conneries, c'est la chose la plus importante. Et donc, si tu n'es pas authentique, au bout d'un moment, ça va être très fatigant, certes, mais surtout, les gens vont s'en rendre compte. Et moi, j'ai tellement d'entrepreneurs que j'ai en tête quand je dis ça, où tu sais très bien que ce sont en fait, tout est faux, mais en fait, au bout d'un moment, il y a plein de gens qui se font avoir, parce que c'est pas naturel. Et qu'en fait, si tu cherches constamment à montrer toutes tes perfections, mais tu n'es jamais identifiable pour personne parce que personne n'est parfait. Donc si tu montres la réalité de comment ça se passe, les difficultés, des moments de doute, comment ça a été avant, parfois le côté évolution qui est super parce que tout le monde te voit quand tu rayonnes, mais personne ne voit quand tu as commencé tout seul, jeune ou pas forcément plus jeune, riche ou pas forcément plus riche, mais les gens ont besoin de voir ça. Sinon, personne ne se lance jamais. Et ça, qu'importe l'âge, qu'importe le milieu social. Donc oui, l'authenticité, mais même d'ailleurs en ce moment, les réseaux sociaux ont poussé à mort l'authenticité parce que ça attire les gens. C'est hyper important. C'est de l'émotionnel, en fait.
Il faut donc aussi raconter ses galères.
Ouais, mais quand c'est en lien avec ta ligne éditoriale, ça dépend. Si tu parles de contenus qui n'ont rien à voir avec ton entreprise, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça, t'as pas besoin de parler de tes galères. Mais c'est bien, si tu as un contenu entrepreneurial et que tu veux toucher des entrepreneurs, de oui, parler de tes galères aussi.
On a parlé du réseau, on a fait le fait de se rencontrer, de se connecter. C'est ce que tu disais, Kelly, de ne pas être isolé. Quel autre conseil on peut donner pour passer la seconde étape, la seconde marche quand on est indépendant?
De ne pas se mettre de barrières aussi. Moi, j'ai commencé beaucoup à prendre la parole au début parce que je voulais montrer aux gens que quand j'ai commencé à prendre la parole, j'avais 20 ans, j'entreprenais déjà depuis 1 ou 2 ans. Si je l'avais fait à mon âge, j'étais pas plus intelligente que tout le monde, j'étais pas mieux que tout le monde, juste j'ai commencé à m'exposer. Et donc c'est de montrer que tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait pour commencer à communiquer.
On se met trop de limites.
Mais bien sûr, mais l'être humain se met, c'est la première personne avec laquelle tu te mets des limites, c'est toi-même.
Ouais.
Et c'est tellement con parce que tu te censures alors que déjà tout le monde est hyper égocentrique, donc en fait tout le monde s'en fout de toi, donc en fait pourquoi tu vas te censurer parce que personne va avoir les yeux rivés sur toi. Mais c'est sincère, c'est vrai, l'être humain est égocentrique. Donc si tu fais des choses qui ne vont pas plaire, bah ça ne va pas être vu. Donc c'est pas grave, et si tu fais des choses qui plaisent, elles vont être vues, donc c'est super. Donc en fait, tu n'as pas d'excuse pour ne pas communiquer aujourd'hui, de ne pas le faire intelligemment, pour ne pas entreprendre. Et puis de toutes les façons, la meilleure manière d'apprendre, ça c'est un discours qui est très américain, mais c'est quand tu échoues. Mais il faut échouer en fait. Si tu n'échoues pas, tu vas jamais apprendre. Tu vas rester dans une zone de confort. Bien sûr.
Évidemment, c'est là, il faut dire 2 choses à mon avis. D'abord, il faut dire que le coût de l'échec en France est relativement limité. Parce que les amortisseurs sociaux sont considérables.
Ouais.
Hein, vous serez toujours soigné si vous êtes malade, c'est tout. Hein. Et si votre famille est malade, elle sera soignée, la solidarité nationale la traitera. Donc première chose, le coût de l'échec est relativement limité. Je ne dis pas qu'il est nul, hein, mais il est relativement limité par rapport à ce que vous pouvez trouver dans plein d'autres nations très entrepreneuriales.
Ouais, mais tu sais ce que c'est, Nicolas, je pense d'abord, je pense que c'est une question de honte. Dans notre pays, c'est aussi la honte de l'échec, tu vois, parce qu'effectivement, il y a une protection sociale,
oui.
Tu peux faire face à ça.
Oui.
Mais en termes d'image, de réputation, l'impression d'être un nul,
oui.
Je pense que ça, c'est encore plus fort que tout.
Oui, en même temps, ça te donne de l'énergie vitale, hein, de surmonter ta honte.
On peut te poser la question, comment tu les as vécues, toi, justement, ces échecs entrepreneuriaux que tu évoquais?
Ah, écoute, je vais te dire, c'est que jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai pas pu ouvrir mes enveloppes de relevés bancaires. Parce que j'étais en découvert tout le temps. C'était devenu un traumatisme. Je savais que j'étais en découvert. Je ne voulais pas le voir. Donc, je n'ouvrais pas les enveloppes. Poubelle. Hein? Donc, j'étais dans un espèce de canal psychologique. Et puis voilà, de toute façon, ma vie a avancé. J'ai fait mille autres choses. Mais je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait avec mon équipe lançant Wanadoo. Hein? Ça ne vous parle pas. Mais,
si, je ne suis pas jeune. Hein.
Bon.
Ah oui.
Voilà, on était quand même numéro 1 européen à la fin. Hein.
Ouais.
On avait créé un moteur de recherche qui s'appelait Voilà, qui était aussi bon que le moteur Google de l'époque, etc. Donc, c'était une aventure entrepreneuriale extraordinaire. À l'intérieur du groupe France Télécom, hein, qu'on a coté, on l'a coté pour 19 milliards d'euros quand même. Hein. Bon, j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas eu mes expériences d'entrepreneur, si j'avais pas eu 500 000 balles de dette à 30 ans et que je pouvais pas m'acheter une voiture. Je me souviens que vous savez, dans les magazines, vous grattez pour gagner. Je grattais pour gagner parce que je me disais, peut-être que je vais gagner une voiture. Hein, et avec ma femme, on pourra partir en vacances avec une voiture. Je pouvais pas me payer une voiture. J'ai vécu tout ça. Et on s'en remet sans aucun problème. Non, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est que en France, en particulier, on est éduqué à contredire son intuition. On a des instincts, des intuitions, et il y a quelque chose qui est mental, qui vient d'éducation, je pense, qui dit non, mais attends, oublie.
C'est pas mental. C'est comme ça que l'école française est construite.
Je parle de l'éducation. Peut-être que c'est l'école française. Bon.
Oui, parce qu'il y a un cadre, et c'est vrai qu'on n'apprend pas à écouter ce qu'on ressent.
Et on n'apprend pas à contredire.
Et donc, moi, ce que je dis à ceux qui m'écoutent, c'est à partir de l'âge de 15 ans, vous commencez à avoir des intuitions. Elles sont justes. N'attendez pas d'avoir 40 ans pour vous donner raison. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui attendent 40 ans pour se dire « Mais ça fait des années que je pense ça, et en fait, j'avais raison. » Et tout le monde me... Et en fait, la voix la voix anonyme du fameux tout le monde me disait que j'avais tort. Cette voix anonyme, c'est elle qui avait tort. C'est moi qui avais raison.
Voilà. Donc, et c'est 40 ans l'âge.
Ben, moi, c'est ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup dans mes entourages, hein, de gens qui sont effectivement des excellents salariés, qui sont super pros, etc., et qui ne sont pas totalement accomplis. Pour moi, c'est un crève-cœur. Ils ne sont pas totalement accomplis parce que, en fait, ils avaient des intuitions vitales très très fortes et ils les ont contredites. C'est comme quand vous rentrez dans un magasin, vous savez que vous voulez acheter la cravate rose et vous ressortez avec une cravate orange. Et pourtant, vous vouliez une cravate rouge, vous sortez avec une cravate orange. Parce que vous avez, à l'intérieur de vous-même, quelque chose qui vous contredit sans arrêt.
On se bride, quoi. C'est dingue.
Incroyable, de manière absolument incroyable.
Ouais.
Absolument. L'intuition, il n'y a pas mieux que l'intuition.
Donc ça, il faut le répéter. Du directeur général de la BPI, parce que voilà, on est sur question bancaire, d'entrepreneuriat, oui, c'est important de faire confiance à son intuition. Ce n'est pas quelque chose de rationnel, on pourrait dire, entre guillemets.
L'intuition, c'est l'absolu du point GPS. Votre intuition, c'est vous, c'est la vérité. Et tout le reste, c'est la culture et la société qui va essayer de vous mettre dans des cases, de vous conseiller de prendre la cravate orange alors que vous vouliez la cravate rose. Écoutez votre intuition.
Ça me fait rire, cette histoire de couleur. Parce que le rose n'est pas ma couleur préférée, mais effectivement, tout le monde s'attend à ce que je porte du rose et la marque est rose, etc. Et mon intuition, c'était un contre-pied d'afficher en fait une marque naturelle, donc qui devrait être dans les tons beige, marron, vert. Et mon contre-pied à moi, c'était non, en fait, on va afficher du rose et on va afficher clairement notre différence en portant effectivement la marque et en la brandant autour de cette couleur rose.
Et c'était ton intuition?
Et c'était mon intuition et ça m'a porté chance, ça m'a porté bonheur. Mais j'ai tendance à dire que finalement, le plus gros des plafonds de verre, parce qu'on parle souvent du plafond de verre, en fait, c'est tout simplement les barrières mentales qu'on se met à soi-même.
Oui, je pense effectivement que les limites, la peur du regard des autres aussi, elle est extraordinairement forte en France et que quand on voit des personnes qui communiquent avec transparence, avec spontanéité aussi, Sixtine, c'est ce que tu incarnes aussi, une forme de spontanéité, on se dit effectivement il faut y aller parce qu'être visible, c'est le meilleur moyen de porter son business, quoi.
Moi, ça m'a changé ma vie. Pour être très honnête, de m'exposer. Je vais vous prendre un exemple qui est tout bête. On a, nous, dans notre agence, dans le pôle relations presse, on a deux clients qui sont les deux dans d'un secteur qui est l'intelligence artificielle, donc qui est extrêmement, aujourd'hui, on va dire, au cœur des sujets d'énormément de gens. Il y en avait un qui existe depuis vraiment 15-20 ans, l'autre qui est récent depuis 5 ans. Celui qui est récent est fondamentalement moins bon en termes de fond, mais en com est bien meilleur que l'autre. Et l'autre est bien meilleur en fond, mais pas le meilleur en com. C'est pour ça qu'il est venu nous voir. Et celui qui est plus récent, parce qu'il a une com qui est bien plus poussée et que la personne, elle le fait bien mieux que en tout cas son concurrent, et ça marche nettement mieux en termes de croissance, en termes de mémorisation chez les autres, en termes de qui est le leader ou non dans ce secteur, parce que la personne incarne ça.
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il ne suffit plus d'avoir un bon produit.
Mais non,
il faut qu'il soit vu.
Ce qui est d'ailleurs en fait hyper dommage, parce que pour moi, ça devrait être une priorité à la personne qui est excellente dans un domaine qu'elle vend ou qu'elle propose. Mais le problème, c'est que la communication aujourd'hui, si tu n'es pas exposé, tu auras beau avoir la plus belle Ferrari du monde dans ton garage, si personne ne la voit, ça n'a aucun intérêt. Et donc la super Peugeot qui va se la péter dans la rue, elle va en vendre 10 fois plus que ta trop belle Ferrari qui est dans le garage. Et ça, c'est un truc qui est très...
C'est là où c'est dangereux aussi. Où ça peut être dangereux, c'est-à-dire qu'il faut arriver à donner de soi, effectivement, mais pas tout. Et c'est-à-dire qu'il faut garder un capital de pudeur, un coffre-fort total, duquel ne sortira rien. Voilà, il ne faut pas tout donner. Parce que sinon, c'est tout le capital narcissique qui finit par potentiellement pouvoir être dévalué un jour, complètement, s'effondrer. Et quand vous n'avez plus de capital narcissique parce que vous avez tout donné, vous ne pouvez plus supporter le réel, la douleur, l'adversité, etc. Le capital narcissique est quand même votre force, quoi. Donc, il y a une partie de ce capital que vous devez garder dans votre coffre-fort et ne pas le donner.
Ça, c'est important.
Ça s'appelle la pudeur,
ouais.
Votre famille, un certain nombre de choses qui vous sont vraiment très, très spécifiques, proches, gardez-le pour vous. Et d'ailleurs, les gens vous respecteront pour ça.
Exactement. Et c'est de dire aussi que les réseaux sociaux, quand on communique, c'est un outil, pas pour son ego, c'est un outil pour son business, c'est un outil pour son image, c'est un outil pour porter des idées. Toi, Kelly, tu me disais, moi, je communique aussi parce que j'ai envie de valoriser la femme noire qui réussit dans le business. J'ai plus envie que ça soit une anomalie. Je veux qu'on la voie suffisamment régulièrement pour se dire, oui, c'est possible et oui, c'est normal.
C'est surtout que moi, j'ai eu le déclic en me disant... malheureusement, on parle plus souvent, entre guillemets, des personnes qui ont parfois échoué quand elles font partie de la diversité
plutôt que quand elles ont réussi. Au bout d'un moment, je regardais la télévision et je voyais que c'était toujours les mêmes profils. Il y avait un manque de diversité dans les profils. C'est pour ça que j'ai tenu à faire l'émission Qui veut être mon associé. Il y a moins de femmes, mais alors une femme issue de la diversité. Je rappelle juste quand même que je suis la première femme noire au monde à participer à l'émission Qui veut être mon associé en tant que jurée. Voilà, c'est en France que c'est arrivé. On a eu, j'ai un siège fixe, d'accord. Je suis jurée fixe, alors que parfois, de temps en temps, dans certains autres pays, on a invité quelqu'un, mais il n'avait pas un siège fixe, il était invité. Donc c'est en France, quand même, qu'on a affiché la première femme issue de la diversité sur ce rôle-là, donc c'est assez important. Et en fait, ça a eu un réel impact. Ça a un réel impact. Il y a beaucoup de femmes qui s'identifient à moi, et non pas pour ma couleur de peau, mais tout simplement parce que je suis arrivée dans un siège avec ma robe rose et j'ai montré effectivement qu'on pouvait partir de rien et avoir réussi et continuer effectivement à faire tourner son business, parce que je suis toujours dans l'opérationnel, être mère de famille et arriver un petit peu à avoir une balance et ne pas sacrifier ni ma vie de famille à 100%, ni ma carrière dans le monde de l'entrepreneuriat.
Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de caractère ?
Je pense qu'il faut... pas forcément avoir beaucoup de caractère, mais connaître sa vraie valeur. Elle est bizarre, ma réponse. Hein
si on en fait, être aligné avec soi-même.
Être aligné avec soi-même, mais surtout connaître sa valeur. Et en fait, pourquoi ? Parce que quand on rentre dans un dénigrement, justement, et qu'on prend dans l'ego, et en fait, ça vous bouffe, vous voyez ? Mais si vous savez ce que vous valez, qui vous êtes, que vous êtes aligné avec vous-même et que vous, les choix que vous faites aujourd'hui, vous êtes capable de les assumer dans 10 ans. Parce que ça, c'est très important. Se regarder dans le miroir et dire, j'ai pas pu saisir cette opportunité-là, mais j'assume parce que j'ai eu quelque chose de différent ou quelque chose de meilleur. Savoir se dire que les choix que vous faites aujourd'hui, vous êtes encore capable de les assumer dans 15 ans. Moi, c'est comme ça que je me drive au quotidien dans mes décisions.
Il nous reste une minute pour conclure sur ce dernier épisode de la saison 4 du podcast des indépendants. Un dernier mot pour les milliers d'indépendants quand même qui nous écoutent. Nicolas,
c'est le thème de l'année 2026 de la BPI, c'est le culot.
Montez sur vos tonneaux.
Le culot, c'est pour vous dire à quel point la France est un pays entrepreneurial. C'est un mot intraduisible. Il n'existe pas en anglais.
T'as rejoint oser.
Ah, c'est beaucoup plus.
C'est beaucoup plus.
Ouais. Le culot, c'est la partie animale.
Le culot, c'est français.
Le culot, c'est français, quoi.
Mieux vaut s'excuser que de demander l'autorisation. Bon. Non, mais c'est pas mon mot de fin, moi.
Vas-y, t'excuses.
Mon mot, c'est ma signature dans tous mes contenus LinkedIn, c'est prenez la parole. Prenez la parole, parce qu'il y a une chose que j'avais envie de dire qu'on n'a pas dite, qui évidemment rejoint tout le sujet, c'est n'oubliez pas que quand vous prenez la parole, en fait, vous développez une exigence envers vous-même de devoir devenir une éponge à contenu pour devoir constamment avoir des choses intéressantes à donner à votre communauté. Donc en fait, le fait de prendre aussi la parole sur les réseaux sociaux fait que tu n'as pas le choix toi-même de devenir fondamentalement meilleur très vite. Sinon, les gens vont vouloir arrêter de te suivre parce que tu n'auras plus rien d'intéressant à raconter. Et c'est un truc qu'on oublie avec la création de contenu, mais c'est que ça t'apprend sincèrement à devenir une machine. Tu dois apprendre tellement de choses, tu dois développer tellement de choses, tu dois essayer tellement de choses. Et ça, on n'en parle jamais. Mais donc t'imagines l'exigence que ça crée envers toi-même.
Et ça te rend encore plus curieux parce qu'il faut toujours chercher effectivement du contenu.
Et ça te rend fondamentalement meilleur.
Et ceux qui font du contenu de manière régulière, effectivement, ils ont une vraie discipline.
C'est une discipline.
Complètement. Kelly, un dernier mot.
J'ai envie de dire que votre voix est un pouvoir, tout simplement. Votre pouvoir, en vrai, il est présent en chacun d'entre nous. C'est notre voix, c'est notre capacité, effectivement, à démontrer, à s'exprimer et à ne rien lâcher. Donc ça, c'est hyper important. Et la deuxième chose que je dirais, c'est rester aligné avec vous-même.
Super. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce dernier épisode de la saison 4 du podcast des indépendants. Merci aussi, bien sûr, à Arnaud de Courcelles, directeur général de BFM Business, à Solange Kina pour leur confiance, ainsi qu'aux équipes d'Elo Bank, ainsi qu'à mon équipe. Je pense à Benjamin Serpette, qu'il faut absolument nommer, Mathilde Font pour le maquillage, Grégory Rouillard pour les photos, évidemment, Florène Léric pour RMC BFM. Et on se donne rendez-vous peut-être pour une saison 5 en 2027. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.
C'était le podcast des indépendants sur BFM Business. Retrouvez Ludovic Badeau et ses invités un mercredi sur deux. Pensez à noter l'épisode si vous avez aimé l'écouter.